Hey, salut vous autres, comment ça va? Je suis content de vous retrouver ce soir. Dites-nous tout de suite où est-ce que vous êtes, où est-ce qu'on vous retrouve sur la blêle. Voyons, j'ai un petit retour de son, bougez pas, allez couper un micro et voilà. Parce qu'on a du monde dans le VIP ce soir, mais vous le savez, on a un invité spécial ce soir. Alors, on va vous la présenter dans pas grand temps. Mon Dieu, j'ai un petit... Ah, ok, ça provient de là. J'ai un petit retour de son, mais c'est pas plus grave que ça. Est-ce que vous m'entendez bien de votre côté? Dites-moi d'où vous venez. Dites-moi un peu comment ce qui fait par chez vous. Hier, c'était le Dawa. On avait des gens qui avaient été embrassés les bancs de neige à gauche et à droite. Aujourd'hui, ça a décidé de fond. Ça a fait de la belle boucane partout. Je vous fais pas une introduction trop longue parce qu'on va avoir une belle soirée. Soirée très, très intéressante puisqu'on reçoit Mme Rossel-Aurore Bouchard, qui est une historienne de renom. Chuck vous l'a présenté dans le preview sur le live. Et on va avoir l'honneur de discuter avec. Vous allez voir qu'il y a énormément de... Il y a beaucoup de données, mais il y a beaucoup aussi d'humanité, puis il y a aussi beaucoup de senti au travers de ce qu'elle peut nous apporter. Puis c'est un cadeau pour la collectivité, littéralement. Que vous soyez propriétaire légitime d'armes à feu ou pas, que vous soyez amateur d'histoire ou pas, ce qui va suivre ce soir, c'est quelque chose qui, je pense, sur le plan culturel, encore plus que sur le plan des armes à feu, est d'une valeur très chère. Je vous parle d'un point en particulier. Est-ce que vous m'entendez bien? Yes, vous m'entendez tout bien? Dites-moi si vous m'entendez bien, là. J'ai un petit retour.
Est-ce que vous m'entendez, moi?
Oui, je vais venir vous chercher en pas grand temps. Le son est...
Mon téléphone.
Non, laissez-le allumer, ça ne sera pas bien long. Je vais aller vous chercher dans le VIP. Là, vous n'êtes pas en onde encore, ça ne sera pas bien, bien long. Je vous parle d'un dossier avant de faire monter mes invités. Rapport final qui est sorti dans l'incident de Porte-à-Pic la semaine dernière, si je ne me trompe pas, Christian Caisse qui me l'a envoyé, il dit « faut que tu lises ça ». Et puis là, j'en appelle à vous, vous le savez, hein, on n'est pas tous experts en la matière, mais à la gang, on connaît beaucoup de choses. Je vais vous mettre le lien, et je m'excuse à Régis, je ne t'ai pas envoyé ça, Régis, je vais le mettre dans les commentaires. C'est le rapport final qui a été livré sur l'incident de Porte-à-Pic, qui est un très malheureux incident. Mais je me questionne énormément sur un point. Alors qu'on s'attend à un rapport final qui est livré par des gens qui font partie d'ordres professionnels et etc., eh bien, si vous allez dans le tome 4, là, dans le coin de la page, si je ne me trompe pas, c'est 589, ce fameux rapport-là qui porte le nom de « Turning the Tide Together ». Et vous allez voir dans le haut, il y a un lien pour avoir la vidéo de la livraison du rapport en français, mais ils ne l'ont pas encore traduit textuellement en français. Il est en anglais. Prenez le temps de lire les conclusions et recommandations. On prend la peine de dire qu'on ne se prononcera pas sur la C-21. Étrangement, le premier paragraphe de recommandation porte le numéro C-21. Et là, ce qu'on peut lire là-dedans, moi, me trouble un petit peu dans le sens suivant. Je suis en sympathie face aux parents des victimes, à l'entourage des victimes. C'est une grande tragédie. Mais là, comme rapport et comme recommandation, des gens qui sont attachés à un ordre professionnel m'écrivent mot pour mot ce qui est contenu dans les deux amendements qui viennent d'être abandonnés par les libéraux. Et ça, en mon sens, avec les petites connaissances que j'ai, ça ne fait pas de sens. Je comprends la théorie du centième singe, puis elle peut être très forte, vous irez voir c'est quoi la théorie du centième singe sur Internet, là. Mais de là, être capable d'amener un professionnel, médecin légiste ou autre, les mots exacts, la ligne de parti libéral pour que ce soit ça qui soit écrit mot pour mot dans les recommandations, ça me porte beaucoup à me questionner. Fait que là, ce que je vous demande, il y en a probablement dans la gang qui ont beaucoup plus de connaissances au niveau légal et etc. que moi, sur le plan déontologique, est-ce que c'est acceptable de lire ça comme ça? La lecture que vous allez en faire, est-ce que vous trouvez ça acceptable? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui est possible? Est-ce qu'il y a une cloche à sonner en quelque part? Parce que j'ai un énorme malaise de voir une ligne de parti mot pour mot reflétée dans un rapport d'enquête de quelque chose d'aussi triste que Porte-à-Pic. Vous ne trouvez pas ça un peu... J'ai eu de la misère à le lire, honnêtement. J'ai eu beaucoup de misère. Il a fallu que je me questionne à savoir, mais le professionnalisme là-dedans, il en mange-tu la claque? Dites-moi si je suis dans le champ. Si vous avez des connaissances là-dedans, je vous envoie là-dessus. Là. Faites-moi des recherches. Revenez-moi avec ça. Vous le savez, ce soir, on est en live. Liberté, honnêteté, votre bulletin francophone de la NFA. S'il y a une chose qui est importante, c'est que des regroupements comme la NFA parlent par le nombre, évidemment. Fait que vous le savez, comme d'habitude, on vous dit simplement, pendant qu'on est en onde, allez prendre vos cartes de membres des différentes associations qui vous défendent. Mais là, on parle de la NFA ce soir. Donc, vos cartes de membres, vos memberships individuels sont à genre 35 $ et puis vous vous retrouvez à représentés par le nombre avec le reste de la NFA et avoir une assurance responsabilité civile qui est quand même très, très, très impressionnante. Membre familial disponible aussi, membre à vie. Donc, allez visiter le site de la NFA et allez entrer membre. Sans plus tarder, je fais monter mes invités parce que moi, je veux qu'on passe du temps avec eux autres. Le beau, le seul, l'unique, le grandiose, il a même été coiffé pour nous autres. Chuck Côté, comment ça va?
Salut Martin, ça va bien?
Hey, t'es désespéré quand je te présente, toi, mon chum. Hein?
Ça empire de semaine en semaine.
Je vais trouver d'autres choses la semaine prochaine. C'est sûr, sûr. Je t'apporte un fan club. On vend des autographes, puis on finance la NFA avec ça.
Eh, bah, boy, on va être dans le trou solide.
Je fais monter notre invité sans plus tarder parce que je veux l'entendre parler. Moi, on a fait un test de connexion avec elle cette semaine.
Écoute.
On s'est rappelé après, moi pis toi, puis on a parlé pendant 1 heure. Afin, quand tu te rends compte de ce que, culturellement, de ce que cette personne-là peut nous amener, pas rien que comme propriétaire légitime dans ma feu, mais comme petit Québécois. C'est incroyable. C'est incroyable.
Ouais. Les mots me manquent, Martin. Là. Vraiment, là, c'est. Écoute, j'ai appris un paquet d'affaires en 1 heure. C'est. Écoute, puis on va partager ça ce soir. Fait que let's go.
Oui.
Let's go.
Mais direct là, on l'a fait monter sans plus tarder. Madame Rossel Aurore Bouchard, comment allez-vous?
Ça va très bien, merci.
Ça va bien?
J'aimerais souligner une chose à propos de la NFA.
Oui.
Le club de tir au faucon.
Oui.
J'ai fondé il y a 41 ans. Vous avez envoyé il y a 2 ans 3 000 $.
Et cette année, je pense que c'est 2000. J'invite les clubs de tir à participer à NFA parce que c'est le seul moyen que nous avons pour sensibiliser tous les amateurs d'armes à feu, les propriétaires, les collectionneurs, les tireurs sportifs, etc. Et les clubs de tir, absolument, doivent travailler fort puis envoyer de l'argent parce que vous remarquerez qu'on a enlevé la notion du tir sportif dans le projet de loi de Justin Trudeau, y compris la notion du collectionneur. Il ne reste plus grand-chose, là. Quand on va avoir enlevé le droit à la chasse, ils vont avoir fait, c'est le grand slam.
C'est ce qu'on se disait dans les derniers lives, c'est ce qui devient un petit peu obsolète. Nous autres, on essaye de, dans notre verbal, on essaye, même cette semaine, on avait une rencontre, il y avait une rencontre avec Pierre Poilievre, et puis Kate et moi, on a ramené régulièrement, non, propriétaire légitime d'armes à feu, c'est une propriété légitime qui est entre les mains d'êtres humains, et quand on les prive de ça, eh bien, on s'appuie sur un pouvoir qui est un pouvoir que le peuple ne devrait pas accepter. Ça, c'est ce qu'on est, des propriétaires légitimes d'armes à feu. C'est ce que la NFA défend. Et c'est le verbatim que j'entends aussi de votre bouche, Mme Bouchard, régulièrement. Puis avant de rentrer là-dedans, j'aimerais ça vous faire connaître à notre public un peu. Parce que si nous, présentement, on parle de Justin Trudeau, vous étiez présente lors d'une crise qui est très, très, très emblématique dans l'histoire de la législation sur les armes à feu. On parle évidemment de Papa Trudeau. Suite à la crise d'octobre. J'aimerais ça que vous me racontiez déjà, à ce moment-là, quelle position vous preniez?
C'était la première fois, d'ailleurs, que j'ai parlé. Je pense que c'était à Denis Lévesque, puis ça n'avait pas été bobo, parce que Denis Lévesque, sur les armes, d'abord, c'est un anti-arme à feu notoire, et il travaillait à CJMT à l'époque, et je me rappelle lui avoir dit, écoutez, M. Lévesque, je ne vous connais pas, là, mais faites semblant d'être intelligent, on va pouvoir se parler. Là. Et ça n'a pas marché. Alors, pour la crise d'octobre, évidemment, moi, je suis né en 48, donc j'avais quoi, 23, 22 ans, mais on sentait venir les choses. Et à partir de 75, le projet de loi à Pierre-Éliott Trudeau est sorti. Mais il faut dire que la population était très inquiète. Et que derrière tout ça, dans le fond du projet de loi de Pierre-Éliott Trudeau, c'était de la sécurité intérieure. Je pense que, compte tenu de ce qu'on avait vécu, de la désinformation qu'il y avait eu, parce qu'on avait même envoyé les mesures de guerre, on avait parlé d'une insurrection appréhendée avec 7-8 personnes pour faire là, d'un pays grand comme le Canada. On avait même pas, il n'y avait même pas assez de membres dans la FLQ pour aller un par province puis un par territoire. Et il y avait une insurrection appréhendée. Mais quand même, la population était très insécure. Et le but derrière tout ça, Pierre-Éliott Trudeau, c'était de neutraliser le Québec. Pour le reste, c'est pour ça que les lois ont toujours été plus fortes au Québec, parce qu'on a toujours eu peur du Québec. Et la crise d'octobre a servi de véhicule. Et en 1977, quand la loi est arrivée, vous savez, c'était un, on appelait ça un AAF, un certificat d'acquisition d'armes à feu. Ce qui voulait dire, d'abord, on avait le certificat d'acquisition d'armes à feu à la vie, à vie. Et tout ce qu'il, permettait, c'était d'acquérir une arme à feu. À partir de cette loi-là, on a redéfini des types d'armes qui étaient pour la loi. On avait les armes autorisation restreinte, les armes prohibées et, les, et le reste. On ne parle même pas des armes blanches. Nous avions toujours conservé, et ça, ça a été bien défini dans cette loi-là, malgré tout, parce qu'ils ont été obligés, nous avions les droits à la protection de la vie à domicile pour acheter un pistolet. Nous avions le tir, évidemment. On pouvait acheter un pistolet pour le tir sportif. On pouvait acheter aussi pour la collection. Et on pouvait acheter pour la possession. Et évidemment, on ne pouvait pas en acheter pour la chasse parce que c'est là qu'ils nous ont interdit d'en avoir pour la chasse dans un pays où la chasse est, est formidable. C'est le meilleur pays au monde pour faire la chasse. Les trappeurs en ont besoin et ainsi de suite. Mais ils venaient de mettre le pied dans la porte. On avait utilisé donc la crise d'octobre. Allez donc vous battre comme ça quand les gens ne sont pas préparés, qui ont toujours été habitués d'avoir leurs armes. Et je me rappelle d'avoir dit à mon père à l'époque, « Écoute, ils vont-ils m'enlever ma 94? » Mon père avait dit, « Ben non. » Et c'est là que j'avais compris que ce n'était pas si grave que ça. Mais ce qui était grave, c'est qu'ils ouvraient la porte.
Oui.
Ça se comprenait. Le deuxième coup, ça a été le coup de Polytechnique. Alors, on instrumentalisait et pour protéger, soi-disant, des tirs de masse, comme il y avait de plus en plus aux États-Unis. Alors, Polytechnique a été à l'avant-garde dessus, puis ils ont fait, c'est dur, là. Alors, quand Jean Chrétien a fait cette loi-là, en 1997, là, on entrait dans un autre, véritablement dans un autre milieu, là. Là, il y avait l'enregistrement des armes à tous égards, les armes longues, les armes d'épaule, sans autorisation, les armes à feu sans autorisation. Et on nous enlevait le droit de la protection de la vie à domicile.
Oui.
C'est extrêmement grave parce que la légitime défense, c'est un droit naturel. Imaginez, il est prévu dans la Constitution canadienne et on nous enlève ce droit-là. Mieux vaut pas avoir à se défendre, à défendre sa vie dans sa maison, pour vouloir sauver sa vie et celle de sa femme, parce qu'ils vont manger ta maison, puis tu vas être 10 ans court, c'est encore pire que de mourir.
Oui, parce que là, il y a la notion
ça, c'est
de...
C'est encore les libéraux qui ont fait ça, là.
Il n'y a pas la notion là-dedans de comment on dit, avec la force, on dit à force raisonnable.
Oui, mais écoutez, avec la force légale, un policier se fait attaquer par un quidam avec un tournevis. Il n'oblige pas le policier à prendre un tournevis pour avoir une force équitable. Il demande au policier d'être capable de le neutraliser. Tu as intérêt à être beaucoup plus armé. Moi, c'est évident, je pense que si quelqu'un arrive avec un couteau, j'ai intérêt à avoir un bâton de baseball. Puis s'il arrive avec un bâton de baseball et un couteau, j'ai intérêt d'avoir une arme à feu. C'est la logique même. J'espère que ça n'arrivera jamais dans ma vie, surtout qu'à 74 ans, on perd le souffle assez vite, là. Mais la loi de 97 avait des choses absolument pernicieuses. Chrétien, intellectuellement, au niveau de la loi, était très malhonnête, intellectuellement. Ils nous ont même enlevé les calibres comme 25.
Oui, c'est vrai.
Les calibres comme 32. Écoutez, j'avais un Ruger 32 Etchener. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. C'est un nouveau calibre que Ruger avait fait avec Fédéral, 32 Etchener Magnum. Un excellent calibre, plaisant. C'est un intermédiaire entre le 357 puis entre le 38. Ça faisait très précis. Je ne peux plus rien faire avec mon gun. Ils l'ont rendu prohibé à cause du calibre. Non, mais il y a quelque chose qui ne marche pas là, sous ce soleil-là.
Lundi,
j'ai encore pris avec tout ça.
Vous avez dit quelque chose de très, très intéressant, moi, qui m'a frappé. Vous avez dit, quand il y a eu la conquête, quand les Anglais, dans le fond, on s'est battu en Nouvelle-France, même les Anglais ne nous ont pas enlevé nos armes.
Et pourtant,
on avait perdu une guerre, là.
Et pourtant, ils ont assassiné du monde, les Anglais, en montant. Puis c'est des roughs, là. Les Anglais, comme guerriers, on peut dire que c'est des roughs, mais c'est des chefs d'État. Quand ils ont un roi, ils ont un roi, et ils se comportent en roi. Et je vais vous redonner l'exemple de ce qui est arrivé après la guerre civile aux États-Unis, quand Grant a demandé ce qu'on fait avec les sujets. Il y en avait des dizaines de milliers, là, qui étaient tout armés. Puis Lincoln a dit, écoutez, là, la guerre, c'est terminé, là. Il faut faire un peuple. Laissez-les repartir avec leurs chevaux et leurs armes, là, parce qu'ils vont avoir besoin de leurs armes pour se défendre, pour se chasser. Et on était encore, la conquête de l'Ouest n'était pas terminée en 1866. Là. On n'était pas encore rendu du côté des montagnes Rocheuses. Bien sûr, il y avait des pistes, mais c'était encore rough. Là. Alors, ce qui veut dire que Lincoln était un chef d'État. Et il a donné cette permission-là. Et puis, regardez, ça l'a permis à la nation de se ressouder. C'est un des éléments. Nous, il y a eu une insurrection appréhendée. Il faudrait désarmer tout le monde. Il y a eu un tir à Polytechnique, alors que c'est véritablement un accident de parcours, parce que la population du Québec et du Canada est une population qui est très pacifique. D'ailleurs, les explorateurs aux États-Unis disaient que c'est bien plus facile de l'engager un Canadien français parce que lui, il est plus rough, il est plus tough, il va faire du canot plus longtemps, puis il n'est pas violent. Alors, voilà. Ça, c'est dans notre ADN. Et on a neutralisé ça, on n'en a pas fait fi. Et Chrétien nous a enlevé toutes sortes de droits. Ça allait encore. Bon, OK, il y avait une cause grand-père. La clause grand-père, oui. C'est-à-dire que tous ceux qui avaient des armes en bas de 4 pouces, des armes autorisation restreinte, qui avaient encore des 32, des 25, pouvaient les garder jusqu'à leur mort, ce qui est encore ça. Là, nous, on arrive avec Justin Trudeau, c'est complètement différent. C'est que là... Le motif allégué, ben, vous avez vu la couillonnerie qu'ils font avec porte-à-pic, mais ça, là, c'est complètement malhonnête, mais encore plus que malhonnête intellectuellement, c'est vicieux parce que ça n'a rien à voir, parce que derrière le projet de Justin Trudeau, et c'est là qu'on perd à tous les coups, c'est que ce n'est pas un projet pour la sécurité publique, ni la sécurité des femmes, ni la sécurité de quoi que ce soit. C'est une idéologie qui est derrière ça. Et à partir de ce moment-là, nous nous battons contre un projet de loi avec les mêmes armes que nous avions en 77 et en 97. On perd à coup sûr, puis on va perdre encore parce qu'on ne s'attaque pas à une idéologie qui est celle du cancel culture, qui vient de l'ONU, et en plus, celle-là qui la propose est une Canadienne, c'est Mme Arbour, je pense, qui est en arrière de tout ça. Regardez ce qui s'est produit. C'est tout l'Occident qu'on est en train de désarmer au niveau du peuple.
Mais on ne peut pas dire qu'on est surpris, Mme Bouchard. Là.
Pardon?
On ne peut pas dire, tu sais, vous ne pouvez pas me dire que vous êtes surprise. Là. Je veux dire, c'est toujours la même chose qui arrive là, avec tous les projets de loi contre les armes à feu.
Oui, mais regardez, là, il y a une vision d'ensemble qui échappe au Canada, qui nous échappe. C'est que vous avez l'Angleterre qui est le premier modèle, alors que dans le common law, c'était bien précisé au 17e siècle qu'un citoyen pouvait avoir des armes pour se défendre sa vie. Ça, ils ont complètement neutralisé ça. Ils ont
Et été la charte ne cancelle pas le Bill of Rights.
Toutes les anciennes colonies anglaises ont été désarmées. Regardez la Nouvelle-Zélande. Regardez l'Australie. Et là, ils sont rendus au Canada. Et au Canada, les libéraux sont encore pires que les autres parce qu'eux autres, il faut toujours qu'ils soient encore pires et plus dévastateurs au niveau des libertés individuelles. Et on ne peut pas les combattre sur le même plan. Quand je vois sur les sites, les gens vont dire, ben écoutez, là, les autos, les... bon, ce n'est pas avec ces arguments-là. Là, on se bat avec des avocats, mais ça prend plus que des avocats. Ça prend des historiens. Il faut interroger le fondement même de l'idéologie qui vient de l'ONU, le cancel culture. Il faut interroger aussi la culture fondamentale, fondatrice du Canada et du Québec, parce que ça fait partie de notre ADN, mais ça, c'est pas amené là-dessus, là, parce qu'on n'a pas une armée qui est intellectuellement mindée pour combattre l'idéologie. Mais on va perdre, parce que Polytechnique, c'est pas comme en 97 avec les Chrétiens. Polytechnique l'idée. Mais là, Polytechnique, là, ils n'avancent pas pour rien, c'est parce qu'ils sont instrumentalisés et sont trop cons pour le comprendre. Qui ont fini par embarquer dans la machine.
Est-ce que je me trompe ou pour moi, là, depuis le début de ce débat-là, je pense que le talon d'Achille, qui est malheureusement mal exploité, Polytechnique, qui est leur fer de lance dans la majorité des sorties publiques, c'est aussi inversement leur plus grand ennemi, puisque le médecin légiste a sorti le rapport du médecin légiste de Polytechnique a statué que même le contrôle le plus strict au niveau des armes à feu et la législation la plus stricte n'aurait rien changé.
Mais le rapport.
Mais regardez aussi dans le rapport qu'il y a eu sur Polytechnique quand ils ont parlé de la Mini 14, en conclusion en disant la Mini 14, bon, on ne se prononce même pas là-dessus. Écoutez, la Mini 14, là, les fusils d'assaut qu'ils ont fait avec des Mini 14, ce n'est même pas une Mini 14, c'est une foule automatique qui peut être semi-auto. Les Mini 14 de chasse pour aller au Coyote ou autre, c'est une semi-automatique bien ordinaire.
Absolument, absolument. On a démonisé un calibre qui n'est même pas reconnu par l'État dans les plans de gestion et dans la loi sur la conservation et la mise en valeur des milieux fauniques comme un calibre qui est suffisant pour aller à la chasse au grand gibier. Et on l'a démonisé comme arme de destruction massive de l'autre côté. Il y a aussi un manque de connaissances qui est énorme là-dedans.
C'est la malhonnêteté du législateur, là, celui qui est en train de faire la loi, là. L'avocat là, qui est rendu le ministre de la Sécurité publique, c'est complètement débile. Là. Il y a une malhonnêteté intellectuelle de cette part-là. Et regardez le projet de loi. Une chance qu'on a eu un joueur de hockey qui a sorti. Mais dans le fond, là, il y a eu un lock and punch, là, lui-là, là, parce qu'il ne savait même pas qu'il allait faire aussi fort que ça. Là.
Non.
Et, il a dit « le roi est nu ». Là. Puis tout le monde s'est aperçu que ça n'avait plus de bon sens. Il était en train de nous enlever les derniers droits qui nous restaient. Là. Ça n'avait pas d'allure. Alors là, ils ont fait un repli, mais ne pensez pas qu'ils vont arrêter, c'est pas vrai. Les libéraux vont revenir encore avec une loi encore plus pernicieuse. C'est dans leur ADN. C'est un parti vicieux à cet égard-là et ils ne s'arrêteront pas. Alors, il y a une seule façon de neutraliser le projet de loi qui s'en vient. On espère qu'on va avoir des élections au printemps. Ça s'annonce. On espère qu'on va foutre à la porte cette gang-là et qu'on va recommencer. Oui, je suis d'accord qu'il faut réglementer les armes à feu. Je suis d'accord qu'il y a des types d'armes à feu qui ne doivent pas être dans les mains de tous les citoyens sauf l'armée et la police. Oui, je suis d'accord qu'on peut discuter sur le bon côté d'un port d'armes, genre Floride, et puis entre l'autre extrémité qui est la Californie, qui est encore pire que le Canada. Voyez-vous, dans une idéologie comme celle-là que Justin Trudeau est en train de véhiculer avec son ministre de la Sécurité publique, une idéologie, c'est quoi? C'est une extrême. Ils sont à un extrême. Alors que quand ils parlent des propriétaires d'armes, écoutez, j'ai 74 ans, jamais fait de mal avec des armes à feu, j'en ai depuis l'âge de 13 ans. Je ne suis pas dans un extrême, mais eux autres, dans leur discours, ils me mettent à l'extrême. Et ça, c'est extrêmement grave, parce que quand tu as une idéologie, c'est une idée. C'est uniquement une idée qui vient de quelque part. Mais là, on le sait, elle vient de l'ONU, c'est magistral. Et il n'y a plus de raison. Quand c'est rendu là, il n'y en a plus de raison. On ne peut plus discuter avec eux autres. C'est pour ça qu'il faut avoir un temps d'arrêt. On espère que Trudeau va perdre ses élections prochaines et qu'elles vont arriver vite parce que c'est foutu. Ils vont revenir encore plus salopards qu'ils le sont avec ce qu'on leur a fait reculer. Ça va être encore pire. Dites-vous bien, là, ils essayent de trouver la façon pour rentrer le rat dans le morceau de fromage. Puis ils vont le rentrer parce qu'ils sont vicieux.
Ouais, c'est ce que je pense aussi. On a eu la chance, grâce à l'intervention de la FEDECP, d'avoir un meeting en Zoom comme ça avec M. Mendicino. Et puis, j'ai été stupéfait de voir comme on a pu voir comme reflet aussi chez d'autres intervenants qui ont supposément la sécurité publique en main, de constater à quel point il n'y avait aucune idée de ce qu'on parlait au niveau technique dans les armes à feu, il n'y avait aucune idée de ce qu'on parlait au niveau classification, il n'y avait aucune idée de ce qu'on parlait au niveau de la conception d'une arme à feu quand il faisait appel au moment de la conception dans la définition de la percussion centrale, etc. Il y a un manque de connaissances totales. Et moi, je vais utiliser un vieux mot là, qui est plus à mode, ça me flabbergasse de voir à quel point on prétend vouloir faire quelque chose pour la sécurité publique. Quand au départ, on ne connaît absolument rien sur l'item dont on parle, qui est excessivement technique. Là, on parle d'armes à feu. Là. C'est
Martin,
hallucinant.
Les armes semi-automatiques sont utilisées depuis 120 ans. Puis je veux dire, sécuritairement, il n'y a jamais eu de problème. Mais puis voilà. Là, tout d'un coup, ça deviendra un problème. Voyons, c'est quoi ça?
Mais là, c'est rendu que les armes avec du plastique noir,
ouais,
qui ont un pistol grip, c'est illégal. Oui. Pour eux autres, là, qu'une arme qu'on y a mis un lining troué pour ressembler à une arme d'assaut, c'est illégal.
Et voilà.
Il va rester quoi? Il n'en restera plus parce que le tir à la cible présentement, là, quand on regarde les derniers modèles d'armes à feu là, qui vont aller chercher leur cible à 2 km, 2 km et demi, hein, même de ça, je pense qu'ils sont en train d'essayer de poigner le 4 km.
Les armes de sniper. C'est la prochaine chose. Ça. C'est la prochaine narrative, on le sait.
Et, là, et après ça, ils ont commencé à mettre la vitesse, à mettre à la sortie de la bouche. Mais écoutez, là, moi, je fais du reloading. Là. Quand je fais une balle de 30-06, ou prenons le 45-70, ma femme n'est pas capable, avec ma Sharps, de tirer les balles Factor et l'autre qui sont quand même middle. J'y fais une balle avec une 41-98 poudre, au minimum, 36 grains.
Avec une espèce de low recoil.
Mais si j'arrive avec la logique de Mendy Sino, ma 45-110, quand j'arrive avec un Factor et l'autre, n'est même plus légale. Ils savent même pas que la plupart des tireurs sportifs font leurs munitions pour avoir un meilleur rendement, pour payer moins cher. Et c'est agréable en plus. C'est plaisant. Tu as ta petite atelier, puis le soir, il y a une tempête de neige. Là, tu dis, tiens, je vais aller me faire 20 balles de 45.
C'est comme faire des mouches.
C'est extraordinaire. C'est une belle activité. Je fais ça depuis le début de ma vie, moi. Et puis, je ne voudrais pas qu'on m'enlève ça. Quoique, alors que j'ai là, ils feront bien ce qu'ils voudront, là. On met ce qu'ils voudront. Apprenez à faire vos armes.
Oui, ça, on ne l'a pas mentionné. Vous avez été armurière pendant 25 ans. Vous dites, là, vous avez tous vos rimeurs encore. Puis la discussion qu'on a eue lundi, là, je veux dire, c'était hyper intéressant parce qu'on voit que vous connaissez ça énormément. Donc,
écoutez, là, vous voulez vous faire un beau 9 mm à un coup. Gardez vos vieux canons. Vous y êtes déjà chambré. Vous n'avez même pas besoin de le chambrer. Il vous restera à faire un lining avec puis le rentrer dans un refil. C'est facile.
Madame Bouchard, je veux juste revenir un petit peu en arrière parce que, bon, ce livre-là, La vérité derrière le faux débat que vous avez sorti, qui est un livre incroyable. Là-dedans, là, en Nouvelle-France, puis corrigez-moi s'il vous plaît, là, les dates, c'était la loi qu'on devait, tous les propriétaires devaient avoir une arme à feu chez eux pour pouvoir se défendre contre les Indiens.
Absolument.
C'est en quelle année, ça?
À Montréal, était la première loi qui a été passée sous Maisonneuve où tous les habitants devaient avoir leur fusil quand ils sortaient et suffisamment de munitions pour être capables de se défendre. C'était une loi, c'était légal. Et si vous aviez lu le livre que j'ai fait sur la force des armes à feu pendant les guerres franco-iroquoises, de 1542 aller jusqu'à 1701, jusqu'à la Grande Paix de Montréal, là, vous verriez comment est-ce que ça a avancé le principe de la possession des armes à feu. Les Iroquois, dès 1640, commencent à faire une bonne percée dans le Saint-Laurent parce qu'ils sont armés par les Hollandais, parce qu'ils sont armés. Les Anglais ne sont pas encore là-dedans. Et curieusement, ils vont même apprendre, et sur le bord du lac Champlain, à faire leur propre silex pour aller sur leur fusil à silex. C'est quand même extraordinaire. Et en plus, quand les guerres iroquoises vont arriver à leur terme, quand Frontenac va aller donner le dernier coup sur le bord des Grands Lacs, dans l'Iroquoisie, ils vont trouver une enclume. Et quand il va y avoir des fouilles archéologiques, ils vont trouver une sépulture d'un Iroquois avec plein de pièces d'armes à feu. Il était armurier. Alors, vous voyez jusqu'à quel point la question des armes à feu est entrée non seulement dans nos mœurs, dans notre façon de faire, mais c'est collé après nous autres. Nous avons évolué. Ici, les Français ont été moches sur la question des armes à feu. Pendant que les Iroquois s'armaient en 1640-1641, ça a pris encore 20 ans avant qu'ils donnent le droit aux Indiens alliés des Français pour qu'il y ait le droit d'acheter des armes à feu. Or, il y avait un commerce illégal qui se faisait partout le long du fleuve, et on a retrouvé, j'ai analysé des pièces de fusil qui ont été trouvées au lac Achouapouchouane avec des plaques de plastine de forme trapézoïdale, ce qui veut dire qu'elles sont avant 1640, donc il se fichait bien des lois. Ben, c'est un petit peu comme ça avec nous autres aussi, avec toute l'histoire qui avançait. Alors, je vous suggère de lire le livre sur les armes à feu avec les Iroquois, vous allez voir jusqu'à quel point c'est profond.
Je vais définitivement le faire, puis je veux juste faire une transposition à aujourd'hui, parce que là, je m'en allais en quelque part avec ça. Quand les Russes ont envahi l'Ukraine, OK, tout le monde était pour qu'on arme les Ukrainiens. Puis là, je regardais les commentaires des anti-armes qui disaient, bien, toutes les armes à feu qui ont été achetées par les Américains, les fusils d'assaut, envoyez ça en Ukraine, tout ça. Mais est-ce que vous comprenez la risée que c'est? Là, les armes des Américains qui ont eu, là, c'est correct qu'eux, on les envoie là-bas. Ces armes-là, ils n'auraient jamais été faites sinon, je veux dire. Puis là, parce qu'il y a un envahisseur, là, ça devient légitime d'avoir des armes à feu. Comprenez-vous la comprenez-vous comment...
Quand Washington puis Arnold ont envahi en 1775, savez-vous qui a permis de neutraliser les Américains aux portes de Québec? C'est les Canadiens français. Curieusement, ils défendaient le pouvoir de l'occupant anglais. C'est incroyable. La même chose qui s'est produite à Châteauguay lors de la guerre de 1812. C'est encore les Canadiens français qui ont permis à l'Angleterre de sauver sa mise. C'est quoi ce peuple-là qui n'est pas capable de se tenir debout pour comprendre qu'il a le droit, lui aussi, à la liberté et qu'il a le droit à ses coutumes et à son histoire. Là, on tombe, puis pourtant, je ne suis pas indépendantiste, là, mais je vous dis, je donne un autre exemple. La Saskatchewan, l'Alberta sont en train de passer des lois pour protéger leurs citoyens contre les lois abusives du gouvernement fédéral qui s'en vient. Comment ça se fait que le Québec ne fait pas ça? Les Russes sont en train de s'armer au nord avec les Chinois, avec la Corée du Nord, et d'ici quelques années, on peut prévoir qu'ils vont envahir l'Arctique. Hey, écoutez, il n'y a pas 100 Inuits avec des 303 Lienfield dans le bout pour défendre le territoire.
On n'est même pas souverain. Dans l'Arctique.
Non.
C'est illogique, ils essayent de nous désarmer, alors que les Ukrainiens, présentement, s'il n'y avait pas le peuple armé, là, ben, ils n'auraient pas tenu.
Les Ukrainiens n'étaient pas armés. Ils les ont armés à la dernière minute. Puis je veux dire, c'est justement c'est grâce à l'armement de l'OTAN que les Ukrainiens tiennent les Russes, parce que sinon, je veux dire, ils n'auraient jamais tenu, là.
Et curieusement, les armes que Trudeau leur a envoyées pour armer leur population, alors que de l'autre côté, ils essayaient de désarmer la
scène. Mais c'est ça.
Ça ne tient pas la route. Puis j'aimerais aussi vous ouvrir à une réflexion. L'opposition que nous avons sur les armes à feu, le droit à avoir une arme à feu est un droit individuel. C'est un droit individuel. Or, nous faisons face à des revendications pour des droits collectifs. Comment on fait pour tout ça? Il va falloir qu'on étudie la façon, parce que là, il nous arrive... écoutez, rappelez-vous, quand Martineau nous envoie son mot « liberté » pour rire de ceux... Ils ont même travesti la valeur des mots. La liberté, c'est avec ça qu'ils ont fait les États-Unis. Et là, ça ne vaut plus rien. La liberté... Un peuple est libre si les individus sont libres. Si les individus ne sont pas libres, le peuple ne peut pas être libre. Ce n'est pas possible. Bien sûr qu'il peut y avoir des abus. On peut se questionner sur la pertinence, comme il y a en Floride, de dire vous pouvez acheter n'importe quelle arme, les porter sans permis, comme j'ai vu aujourd'hui dans le journal. On peut s'interroger là-dessus. Est-ce que c'est véritablement, on peut aller jusque-là? Mais on peut aussi s'interroger sur le fait que la Californie, si ça continue de même, ils n'auront même plus le droit d'avoir un pistolet à eau. Ils sont encore pires que le Canada. Vers où on s'en va? Alors moi, je pense qu'il faut réinterroger la démarche, pas la loi qu'ils nous font, parce que c'est toujours un coup fourré. Il faut réinterroger la démarche, de quelle façon on se munit pour aller contester ces projets de loi-là. Et cette façon-là, je pense qu'il va falloir lâcher le petit discours qu'on retrouve sur les sites à travers le Québec, qui disent toujours la même chose et qui sont individualisés. Ça prend des professionnels. Je pense que vous allez devoir essayer de trouver l'argent pour engager des professionnels en histoire. Ce ne sera pas moi parce que moi, je ne prends plus de contrat, mais vous allez avoir des jeunes, former des jeunes parce qu'il faut former l'avenir. Avoir des anthropologues aussi qui étudient nos mœurs, qui étudie notre histoire avec les historiens, et après ça, qu'il y ait aussi des sociologues et des philosophes qui étudient le programme qui vient de l'ONU. C'est comme ça qu'on va pouvoir neutraliser, on va pouvoir discuter d'égal à égal. Là, on ne peut pas discuter. Là, vous avez le communautarisme qui s'attaque à l'individu. L'individu ne peut pas gagner, c'est impossible.
Et Mme Bouchard, moi, j'ai un problème en ce moment parce que vous êtes la seule... la seule anthropologue puis la seule historienne. Je pense qu'il y a Marcel, comment il s'appelait Marcel, l'historien, voyons. Donc, on voit, il n'y en a pas beaucoup d'historiens puis d'historiennes qui parlent comme ça. Là. Puis,
oui, mais en plus.
Quand vous parlez de la relève, il n'y en a pas. C'est ça qui. C'est ça qui est,
mais
qui
en plus, ce qui est terrible, c'est qu'ils en ont fait un combat entre les hommes et les femmes. Écoutez, là,
oui.
Les femmes, les hommes sont individualistes. C'est normal, c'est dans leur ADN, c'est eux autres qui défendent la famille depuis l'âge des cavernes. La femme étant plus vulnérable, si on se rapporte à cette époque-là, au niveau de l'enfantement, au niveau de la musculature et à tous égards, la femme est comme une autariste. Alors, nous avons le débat se situe, si on le décortique bien, entre hommes et femmes. Bien sûr, nous avons des femmes dans notre club de tir, le Faucon. Elles tirent, elles sont bonnes, elles sont gentilles, on a un bonheur. Ma femme est là-dedans aussi, c'est extraordinaire. Mais c'est pas équitable. On peut dire que sur 100 membres, on va avoir quoi, 5 femmes sur 100 membres. Alors, les lois sont proposées par des femmes. C'est un combat des femmes contre les hommes, du communautarisme à la Trudeau, là, c'est véritablement à partir de 1982, les communautés qui se battent contre la communauté fondatrice, qui est celle des Métis, des Indiens, des Canadiens français, des Canadiens écossais d'avant 1760. C'est grave. Quand on dit que les musulmans de Québec sont devant le ministre Mendicino pour aller nous dire de ne plus avoir d'armes, ça apprécie, y a-t-il du monde plus violent que les musulmans présentement en Afghanistan?
Dans une salle où est-ce qu'on a retiré le crucifix pour les respecter?
On n'aurait jamais pu bâtir ce pays sans les armes à feu. S'il n'y avait pas eu la chasse,
mais on ne l'aurait pas pu bâtir avec les musulmans non plus. Hein?
Non,
c'est là, hein? c'est sûr de dire ce que j'ai à dire. Moi, là, ça m'insulte quand je vois un leader musulman, un imam, qui est devant le ministre Mendicino pour aller défendre, aller nous dire qu'on ne veut plus avoir d'armes, puis aller défendre la loi restrictive de Trudeau. C'est extrêmement grave, mais qui va aller dénoncer ça? Autre chose aussi, on a lié, en plus de lier communautarisme à la Trudeau contre peuple fondateur, on a lié les femmes en général, mouvement féministe et ainsi de suite, contre les hommes, et on a ligué les grandes villes contre les régions ressources, oui. et la campagne. Ils sont en voie de déconstruire la société que nous avons construite par 500 ans d'histoire. Ils sont en train de la neutraliser. Écoutez, je ne suis pas complotiste comme on l'explique. Là. Je ne crois pas, moi, là que je ne sais pas, là, que il y a des extraterrestres qui vivent dans l'océan. Là. Je ne crois pas à ça.
Les lézards. Par les contre, lézards
quand je regarde sur un grand échiquier que la Nouvelle-Zélande, que l'Australie, que l'Europe aussi, que la Suède, la Suisse est même embarquée, quand je vois que toujours les mêmes restrictions arrivent et que le fondement est à l'ONU, je me dis oui, il y a un complot là. Et c'est le mot. On pourra dire ce qu'on voudra, il y a un complot, il faut neutraliser ce complot-là. Nous sommes mal partis, nous sommes mal barrés, on est en train de le perdre. Puis il va falloir trouver des ressources humaines intelligentes qui sont capables d'analyser le problème, de le décortiquer, de remettre à l'avant-plan les valeurs morales, citoyennes et civiques des Canadiens français, des Métis et des Indiens qui ont construit l'Amérique, qui ont construit le Canada. Il faut remettre ça à l'avant-plan parce qu'on est rendu qu'on n'est plus rien dans ce pays-là. Et il va falloir remettre les communautés culturelles, que ce soit les Chinois de Vancouver, que ce soit les musulmans de Québec ou d'ailleurs. Je ne suis pas anti... je ne suis pas raciste sur ces choses-là. Mais quand je vois qu'ils sont rendus avec plus de force politique que chez nous, que nous autres, là, je commence à trouver ça désolant. Là.
On pourrait parler de la C5. On pourrait parler de la C5 là-dedans. Là. Vous me dites que vous n'êtes pas raciste, mais les lois qu'on nous met dans les jambes en disant protéger le peuple sont inversement racistes. Ces mêmes minorités culturelles-là, exactement, et les Premières Nations jouissent d'une peine minimale maintenant dans le même genre de crime qu'un Québécois de souche. Je veux dire, c'est là qu'on est rendu. Je prends juste une pause de deux petites secondes pour répondre à une question qui est très importante. Vous voyez présentement des commentaires se faire masquer dans le fil de commentaires, et pourtant, il y a un de ces commentaires-là qui dit simplement « elle est très cultivée ». Oui, effectivement, et c'est ce qui se passe à toutes les fois qu'on lève ces sujets-là. Il y a le logo de la NFA dans l'écran. L'algorithme des médias sociaux, avec l'arrivée de la loi C-11, commence à se modifier de plus en plus lourdement. Et puis, ce n'est pas nous qui bloquons ces commentaires-là. Vous pouvez voir en dessous du commentaire que ça, dans certains cas, là, ça dit « enfreint les règles de la communauté Facebook ». Alors, c'est Facebook qui fait une reconnaissance de caractère et qui masque automatiquement. Ça, c'est ce qui se passe. En appui à ce que vous dites, Mme Bouchard, on a eu à se déplacer, nous, du côté d'Ottawa, au CQ Meeting. Puis vous remarquerez ce soir que j'ai fait un exprès. On ne me dit pas objectif, fait que j'ai porté le bleu à soir pour flouer les cartes un peu. Quand on s'est présenté à Ottawa, au CQ Meeting, on m'a laissé parler, moi, ma conjointe que vous avez vu tout à l'heure avant le live, Kate, qui est ma co-animatrice aussi, s'est présentée aussi. On a fait tous deux notre allocution. Et moi, je me suis fait poser énormément de questions. On est allé de manière vicieuse dans mon rôle avec la NFA. Il n'y a personne là-dedans qui a osé même poser une question à Kate, puisque lorsqu'elle a fait sa présentation, elle a en plus dit « Moi, je représente un groupe de femmes, chasseuses, pêcheuses et trappeuses, sur Facebook, qui est Filles de bois, et nous sommes 20 000 membres. » Il n'y a pas un traître, il n'y en a pas un traître dans place qui aurait osé s'attaquer à 20 000 femmes. Il n'y a personne qui lui a même adressé la parole. Ça, ça va exactement dans ce que vous nous livrez ce soir. On l'a vécu, nous. C'est Sophie, d'ailleurs, qui est avec... Prends la peine de saluer, là, Sophie Bellin qui est avec nous autres ce soir. Là, c'est Sophie qui le faisait remarquer. Effectivement. Avant d'aller plus loin, deux choses très importantes. Dans un premier temps, tout à l'heure, en régie, on vous mettait les liens pour aller chercher les documents de Mme Bouchard. Je vous parle de deux documents aussi qui sont très, très, très importants. On va vous mettre un lien vers un livre que vous allez pouvoir récupérer sur le web, qui est « Les armes à feu en Nouvelle-France », que Mme Bouchard a écrit en 1999. On vous met le lien présentement dans les commentaires. Allez chercher le livre. Prenez le temps de le lire. Question d'être bien outillé dans votre verbatim quand vous parlez, surtout aux beaux-frères pendant que vous êtes dans des vacances familiales et qui vous challenge chez Armes à feu. Avoir un peu de culture là-dessus. L'autre texte qui, moi, m'interpelle beaucoup, et ça va m'amener à ma prochaine question, ou du moins à vous relancer là-dessus. Lorsqu'on regarde le texte que vous avez écrit, que je mets à l'écran présentement, « Les armes à feu et liberté », pourquoi les Canadiens de souche résistent-ils au contrôle de l'État? Et là, je vais faire un lien entre, et je ne me souviens pas de son nom, ce qu'un grand président a dit, il faut se méfier d'un gouvernement qui veut saisir les armes de son peuple. Et là, vous pourrez me le nommer, vous y connaissez beaucoup plus que moi. Et vous amenez justement dans cette partie-ci, au fur et à mesure que l'État centralisateur récupère une liberté individuelle, il augmente son pouvoir sur les individus sous prétexte du bien collectif et de la sécurité publique. Et il le fait conséquemment au profit des institutions complices et au détriment du citoyen, une cuillère à la fois. La tactique est efficace et fait ses preuves depuis longtemps. Les véhicules en crise d'octobre, on le vit encore présentement. J'aimerais ça que vous m'ameniez sur l'appauvrissement, si on le veut, des libertés individuelles. Là, où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui? Et qu'est-ce qui, selon vous, s'en vient, là, si le combat n'est pas fait avec des anthropologues et des sociologues et des historiens, là?
Elle est fondamentale, votre question. On a changé la valeur des mots et on continue de changer la valeur des mots. Regardez, avec le YEL, là, vous avez tout de suite, et le dictionnaire est en train de s'appauvrir au niveau des mots. On change la valeur des mots. Et ça, les plus grands philosophes de l'Antiquité chinoise, de l'Antiquité classique l'ont dit, quand vous changez la valeur des mots, vous venez de changer l'histoire. Vous venez de changer complètement l'humanité, là. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Je vous ai donné tantôt un exemple, parce que le mot est fort. Quand on dit qu'aujourd'hui, quand on réclame la liberté, on fait rire de nous autres, par des types comme Richard Martineau, qui dit n'importe quoi, bien souvent, et ça arrive des fois qu'il dit des choses, que ça marche, mais il dit n'importe quoi. Moi, quand je vois écrire dans ces éditoriaux que je lis, hein, je les lis, hein, le mot « liberté » pour dénaturer et ridiculiser ceux qui combattent la liberté, je trouve ça odieux, je trouve ça grave. On ne peut pas, être plus bas que ça. Allez donc dire ça aux Américains qui ont construit le pays le plus riche de l'histoire de l'humanité,
le plus puissant de
l'histoire de l'humanité, sous le principe de la liberté, alors que nous autres, on rit de nous autres, on a ri des camionneurs. Écoutez, les truckers qui ont fait leur contestation, oui. Je ne sais pas s'ils l'ont fait bien, mais c'était essentiel qu'ils la fassent. Quand on dit que ce premier ministre-là, pour des raisons plus ou moins bien indiquées, a levé la loi des mesures d'urgence, qui est la loi des mesures de guerre de son père, pour une contestation, une manifestation, c'est extrêmement grave. Et on est rendu là, et ça, c'est permis pour quelle raison? Parce qu'ils ont changé la valeur des mots. Ils ont changé la loi des mesures de guerre pour la loi des mesures d'urgence. Mais ça, tu l'as pareil là-dedans.
Hein? Sanitaire, les mesures sanitaires.
Mais ça, vous me dites, là,
les mesures important. Sanitaires, c'est pareil.
Alors, c'est important pour l'auditoire. Est-ce que, je veux juste vous faire répéter, parce que c'est important pour l'auditoire de comprendre ça. Quand Chuck vous dit toujours que c'est le même verbatim depuis le début, qu'on reconnaît la technique depuis le début, puis que c'est idéologique et fondamental chez ces gens-là, je veux vous entendre le dire, on va le verbaliser, Mme Bouchard. La technique qu'a utilisée Justin Trudeau, d'utiliser l'état de mesure sanitaire, c'est essentiellement, ce que vous me dites, la même qu'a utilisé son père en 70 avec la loi des mesures de guerre, c'est ça?
Absolument. Je parle de la loi des mesures d'urgence qu'il a faites pour neutraliser la manifestation des troqueurs. Et là, exactement la même, là. Tu perds tes libertés fondamentales. Ils ont le droit de... Écoutez, là, ils ont juste que saisi des comptes de banque.
C'est fou.
Vous remarquerez qu'ils ont vraiment saisi les comptes de banque de certains ministres libéraux, hein? Et puis, ça, ils ne le feront jamais, hein? Alors, ce qui se passe dans ce pays-là est extrêmement grave. Ils sont en train de s'assurer la mainmise ad vitam aeternam sur le Canada, parce que, et là on sort des armes, parce qu'on a laissé rentrer l'immigration massivement, c'est même plus une immigration, c'est une invasion migratoire, c'est pas une crise migratoire, c'est une invasion migratoire. Perdez pas le fil de l'histoire. Ils disent que, j'ai vu les chiffres sur les nouvelles données démographiques, 1 million de plus de Canadiens grâce à l'immigration. Savez-vous ce que ça veut dire? Il vient d'assurer encore sa réélection. Et si on ne réussit pas à l'ôter là, à la prochaine élection, à les ôter, c'est terminé. Hein? On est déjà dans un état, le pays est déjà dans un état totalitaire parce que le Parti libéral a avec lui, ils ont réussi à faire une entente très solide avec le NPD puis le Bloc.
Oui.
Alors que Justin Trudeau a été élu avec une minorité, il fait des lois que même un gouvernement majoritaire seul ne ferait pas. Ce serait trop risqué. Là, il le fait avec la complicité du Bloc et du NPD. On ne peut jamais renverser ça. On est dans un État totalitaire présentement au Canada. Le seul droit qu'on dit que vous avez, dans le fond, qui nous reste, c'est le droit de choisir son dictateur. Puis encore là, on n'est même plus capable parce qu'ils ont trop rentré par l'invasion migratoire à partir de Roxham, puis à partir d'ailleurs, parce qu'on sait qu'il y a, écoutez, il y a 4500 kilomètres de frontières non gardées entre les États-Unis et le Canada. C'est la frontière la moins gardée au monde et la plus longue au monde. Ils n'arrêteront pas ça. Alors, et là, ils sont en train de légitimer le droit de vote pour ces immigrants-là. Comment on peut s'en sortir? Il n'y en a plus de démocratie. On n'est plus capable d'intervenir. Ils ont changé le sens des mots. Les communautés vont voter toujours pour Trudeau parce qu'il va toujours défendre. C'est son pain béni, hein?
Oui, oui.
On est mal pris. Plus la question de la loi sur les armes à feu, parce que l'émission est pour ça. On ne sait même pas quel est l'ennemi parce qu'on n'a pas appris à comprendre que là, maintenant, notre ennemi est idéologique depuis 2014, depuis qu'il est là. Et puis remarquez, hein, quand il a commencé au pouvoir, il a dit on ne s'attaquera pas aux tireurs sportifs en 2014. Et jamais, on va. Puis d'ailleurs, Polytechnique disait le même message. Hein. Nous autres, tout ce qu'on veut, c'est d'enlever les chargeurs à grande capacité, enlever la Mini 14 et les armes d'assaut. Ça s'arrête. Ils sont rendus bien plus loin que ça. Là. La première liste, il y avait plus de 1500 armes, type d'armes. Et après ça, il serait bien mieux de faire une liste de ce que c'est qu'il nous reste, qu'on a le droit. Ça va être bien facile pour eux. Il va nous rester 15 sortes d'armes à peu près. Un fusil à un coup, un Koué à un coup, modèle 94.
Et après ça,
Remington. Ils veulent même enlever les pompe guns.
La première chose qu'on voit là, dans une démocratie, dans un cours de droit, c'est la séparation des pouvoirs. Puis moi, qu'est-ce qui m'a marqué au courant des dernières années, c'est ça. Une démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Il y a le législatif, il y a l'exécutif, puis il y a le judiciaire. Donc, tout ce qui est les cours, les juges, les députés, puis l'exécutif qui est, dans le fond, le Sénat.
Mais pas au Québec, là. Au Québec, ils l'ont
enlevé. Non, mais c'est ça. C'est ça qui est fou, parce que là, qu'est-ce qui est arrivé avec Jody Raybould, c'est qu'on a vu que le législatif mettait des pressions sur le judiciaire. On est dans une dictature, je vais être un complotiste, mais c'est carrément ça. Puis le monde, le pire, là, c'est qu'on le sait, il y a des preuves de ça, et tout le monde s'en fout.
Au Québec, le législatif, ça n'existe plus. Maintenant, c'est le Conseil des ministres qui fait les lois. Ils ont fait, rappelez-vous, une rencontre au Parlement en 2014 pour promouvoir sous Charest le registre.
Oui.
Sur 21 participants, 17 étaient anti-armes à feu. Et moi, ils ont refusé que j'aille déposer alors que j'étais la seule historienne, la seule contestataire qui avait des données en plus très empirique sur les armes à feu pour la connaissance, la collection et ainsi de suite. Ils n'ont pas voulu m'entendre. C'est pour ça que j'ai publié ce livre-là en 2014, parce que je disais, c'est pas possible, vous m'avez fermé la boîte, mais qui l'a lu dans le fond? Personne ne l'a lu sauf vous autres. Ou quelques...
Écoutez, je vais le dire, là, il est en ligne, gratuit, sur le même, même endroit où est-ce que le document...
Oui, le lien qu'on a donné tantôt. Là.
On va mettre le lien. Allez lire ça. Moi, ça
a complètement chamboulé. En régime, le pour les Canadiens français.
C'est annoncé en 2014 ce que c'est qui se passe aujourd'hui. Je l'annonce maintenant.
J'ai publié en ondes dernièrement une vidéo de moi en studio en train de tourner mon émission. Si je ne me trompe pas de barbe en 2014, au moment où est-ce qu'on nous annonçait que Trudeau était là, dans ce qu'il avait livré comme verbatim, post-élection, la volonté d'adresser les semi-automatiques. Je vous disais, c'était clair. Là. C'était, le verbatim était déjà installé à ce moment-là. Là. C'est aussi simple que ça. Moi, je vais vous entendre sur quelque chose qu'on a parlé tantôt parce que vous avez les connaissances pour nous enligner là-dessus. Ce qu'on vit présentement par rapport au fameux rapport qui vient de rentrer de porte-à-pic, de voir que des médecins légistes, que des professionnels qui répondent à des ordres suivent une ligne de parti au point de mettre mot pour mot dans leurs recommandations qu'ils ont pris le soin de faire arriver à la ligne C21. Les deux amendements qui viennent d'être abandonnés par les libéraux, on voit ça comment sur le plan professionnel et sur le plan éthique? Là?
Et il n'y en a plus d'éthique. Ils ont un pouvoir absolu. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Un gouvernement là peut faire la loi qui va dire « Vous allez vous faire tuer en mon nom. » Vous allez être obligé d'aller vous faire tuer, là. Ils peuvent faire toutes les lois qu'ils veulent. Dans une démocratie, il y a une balance du pouvoir, il y a un contre-pouvoir qui, en chambre, va avoir la voix au chapitre. Je vous donne un exemple. En 1977, lors du débat sur la loi de Trudeau, la première loi,
oui.
Je me rappellerai tout le temps qu'il y a eu du monde qui sont allés sur la colline parlementaire. Il y avait pas mal de monde. Et je me rappellerai des débats que les conservateurs, dont Maurice Bellemare, qui est mort, ça fait longtemps, là, puis qui s'est élevé en chambre, puis qui avait dit à tous les Canadiens, « Faites-vous pas voler vos armes par le Parti libéral. Si vous retournez dans les verbatims du débat qu'il y a eu, Trudeau n'avait pas une grosse marge de manœuvre. C'est pour ça qu'il s'est ramassé uniquement avec son AAF, puis une petite entourloupette, mais dans le fond, là, ça avait eu aussi du bon, ce maudite loi-là, c'est qu'il nous avait dit qu'on avait le droit d'avoir des armes autorisation restreinte, alors que quand tu allais à la Sûreté du Québec, il disait non, tu n'as pas le droit d'en avoir, je me rappelle, j'avais 20 ans, je voulais avoir un pistolet légal, et non, on n'a pas le droit, ça n'existe pas au Canada. Alors quand il est arrivé avec sa loi en 1977, c'est là que le monde a commencé à se garrocher, c'est là que les gens ont commencé à dire, OK, on prend le retard qu'on a perdu, et et les clubs de tir au pistolet sont venus au monde. Il n'y en avait pas avant. Mais après ça s'est dégénéré. Nous n'avons plus de contre-pouvoir. Il y en avait un à Ottawa en 1977. Et il était très fort. Le Parti conservateur était très fort dans l'opposition. Là, il n'y en a plus.
Non.
Parce que Trudeau a le NPD puis le Bloc. Et le Bloc totalement anti-armes à feu. Et ce qui me choque dans le cas du Bloc, c'est que le chef du Bloc québécois s'en va se faire photographier à côté de la statue du patriote armé à chaque fête des patriotes, alors qu'il est tout ce qu'il voudrait, qu'il n'y ait même plus un pistolet à eau au Québec, dans les campagnes du Québec. Alors, c'est une malhonnêteté intellectuelle formidable, hein?
C'est n'importe quoi. Je vais vous demander, dans les commentaires présentement, là, les gens vous le disent, mais on vous le répète ici, là, ce que vous entendez ce soir, c'est de la culture dont tout le monde a besoin alentour de vous. Taguez vos amis dans les commentaires pour qu'ils viennent écouter ou qu'ils réécoutent en rediffusion. Partagez le live sur vos pages, sur vos groupes, partout où est-ce que vous le pouvez, partagez-le. Et évidemment, faites-nous des commentaires, des petits thumbs up, et etc.
Cultivez-vous!
Oui, cultivez-vous! Culturez-vous, qui disait. Cultivez-vous. Partagez-moi ça. Aimez. Faites des petits thumbs up, etc. Ça l'aide au live à reacher. Mais surtout, taguez votre monde. Puis taguez-les toutes. Là. Pensez à tout le monde. Faites A commercial avec le nom de vos chums qui viennent écouter ce qu'on est en train de livrer, ce que Mme Bouchard est en train de livrer ce soir, parce que ça, c'est de la vraie connaissance. Et c'est ce qu'on a besoin si on daigne défendre ce dossier-là.
Et n'ayez pas peur.
On va rappeler que...
Dites-les bien vos libertés, parce que c'est le fondement même de notre société et c'est à la base de toute notre démarche historique depuis 500 ans, de l'Amérique aussi. Dites-les, laissez-vous pas influencer par des journalistes qui dénaturent le mot, qui mettent un accent circonflexe sur le A. Laissez-vous pas avoir par ça. C'est important. Moi, la liberté, j'y crois et j'ai toujours travaillé pour ça. Je suis un être libre. Pourtant, je suis en rupture de banc avec le milieu universitaire, je suis en rupture de banc avec les milieux officiels, et c'est pour ça que je publie mes livres à compte d'auteur, parce qu'on me demande toujours de trafiquer le livre pour devenir le pouce-crayon d'un éditeur. Je publie à compte d'auteur à cause de ça. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'éditeur, c'est parce que les éditeurs me demandent de trafiquer mes textes, que je refuse d'aller chez les éditeurs. Alors, soyez fiers de ce que c'est que vous avez comme connaissance, soyez libres, et faites une démarche saine et honorable pour récupérer toutes vos libertés perdues, parce qu'on est mal foutu là. Le combat, on est en train de le perdre. Si vous ne faites pas ce qu'il faut, s'il n'y a pas de démarche intellectuelle vraiment brillante, conséquente, on perd le combat.
Et ce live-là, ce soir, est en rediffusion. Dans le fond, c'est pas juste en ce moment. Là.
Non.
On va être sur Internet, sur YouTube, ça va être partout. Là.
Si vous nous écoutez en rediffusion, mettez le hashtag replay, R-E-P-L-A-Y. Ça nous aide beaucoup aussi. Madame Bouchard, on a comme trame de fond les armes à feu et la législation qui entoure les armes à feu. Je me réfère à vos écrits et je vais aller revoler une expression de Stéphane Monnette qui m'amène à pousser le débat de manière beaucoup plus sociétaire. On a comme trame de fond les armes à feu, là, mais ce débat-là, là, la problématique est beaucoup plus sociétaire. Et une grande partie qui est en train de se passer sous nos yeux porte un nom que Stéphane Monnette lui a donné, qui, moi, j'adore ce mot-là, parce que ça décrit ce qui se passe dans le plan du côté urbain versus le milieu rural. Et ce que moi, je vois et je décris dans l'éducation des 5 enfants qui reviennent ici le soir avec des absurdités. Et Stéphane Monnette a appelé ça l'amnésie collective.
C'est absolument. C'est voulu. Il n'y a plus de cours dit. Ah non, c'est voulu. Moi, quand j'ai commencé à faire du soir, écoutez, on va se reculer de 30 ans. Je recevais déjà des jeunes historiens qui venaient des universités. Ils voulaient savoir. Et aujourd'hui, j'en accepte plus parce qu'ils ne connaissent plus rien. Ils ne savent plus écrire. Ils ne sont même pas capables de faire une démarche de compréhension. Alors, on oubliera les textes. Et je vous informe, là. Moi, quand j'ai sorti le livre « Le dernier des montagnants » en 1995, que j'expliquais là-dedans, que ceux au peuple avec lesquels j'appartiens de par mes racines aussi, parce que j'ai dit trois lignées montagnaises dans ma généalogie, ont disparu en 1670. J'ai été mis en rupture de banc dans le milieu universitaire. Et dans les universités, jusqu'à tout récemment, les étudiants n'avaient pas le droit de citer mon nom dans des références. Ils pouvaient prendre ce qu'il y avait dans mes livres, mais pas mettre mon nom.
C'est fou.
Alors, mais il ne faut pas arrêter de se battre à cause qu'on était conduit comme ça. Il faut se tenir debout. Moi, mon combat est un combat pour dire ce que je ressens, ça ne veut pas dire que je ne me suis pas trompé, je me trompe bien sûr comme d'autres, mais j'essaie de travailler en homme et conscience dans tous mes travaux. J'essaie de dire, je fais une démarche très forte pour essayer de bien comprendre, et j'ai un principe, soyez le meilleur de la question que vous vous posez. Ça oblige beaucoup.
J'aime ça.
Ça oblige beaucoup. Si vous voulez parler de quelque chose, là, soyez pas nul. Vous nous nuisez. Je vous vois sur les sites beaucoup. Il y en a qui font des belles interventions. Je pense entre autres à Guy Morin qui fait un travail superbe. Il est informé. Après ça, en plus, il a un bon tempérament. Il passe bien en caméra. Il passe bien à Radio-Canada. Moi, c'est moins. Disons que je suis un petit peu plus rough. Je fais pas de compromis, moi. Je suis naturel avec vous. Comme je suis avec des amis, je ne veux pas faire de compromis. Mais il faut s'instruire, il faut dire les choses bien, puis apprenez-les. Je vous ai mis des livres sur les armes à feu dans le site Les classiques des sciences sociales universitaires.
Allez, on va les mettre en lien dans les commentaires.
Allez, Mme les Charles. Lire. Vous avez Mme mis Charles. Un texte sur, sur votre front page tantôt que j'ai écrit sur pourquoi oui. ce qu'on tenait. Allez lire ce texte-là, c'est une réflexion qui me prit 40 ans avant d'arriver à ce texte-là.
C'est
vous
riche.
Avez la chance de pouvoir le lire
gang, c'est
et de
court,
pouvoir hein? le réfléchir. Je vous demande pas d'être d'accord, je vous demande de faire l'effort de comprendre ce que j'ai voulu vous dire. Vous pouvez le contester, ce serait même très sain que vous le contestiez. J'ai aucun problème avec ça, moi. Mais lisez-le, lisez les livres que je vous ai faits. C'est pour vous autres que je l'ai faite. La connaissance, c'est le début de la liberté. Quand on connaît les choses, qu'on est capable de les critiquer, qu'on est capable d'avoir une appréhension, une appréciation, on est capable de défendre des idées. Mais il faut faire l'effort. Si vous ne faites pas l'effort, si vous continuez d'écrire n'importe quoi sur les sites, sur Facebook, on perd le combat. Soyez efficace. On vous demande d'être efficace dans le combat. Arrêtez de dire que, ouais, mais les chars, puis comparer les chars avec... Ça n'a rien à voir. Il y a une idéologie derrière la loi projetée par Justin Trudeau sur les armes à feu. Cette idéologie-là, elle est rodée, elle est puissante, elle vient de loin. Si on ne prend pas les moyens intellectuels pour désarmer cette idéologie-là, vous avez en face de vous des extrémistes, parce qu'une idéologie, c'est toujours à un extrême du spectre qu'on étudie. Nous, on est dans le milieu, mais c'est nous qui sommes calqués d'être soit des anarchistes, des complotistes, des extrémistes. C'est grave. On se laisse dire des choses comme ça alors que nous faisons partie des racines de ce pays-là, alors que nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents ont construit ce pays-là avec une arme à feu en bandoulière. Ça, principe, on est en train de nous dire qu'on est des débiles à cause qu'on veut continuer de respecter nos racines, notre culture et notre histoire. Bien, arrêtez-moi ça, instruisez-vous, dénoncez ça. Ça n'a pas d'allure, ça.
On est en train de l'effacer.
Vas-y, j'ai une question pour vous. Pourquoi la devise du Québec, c'est « je me souviens si on se souvient jamais de rien » ?
Ben, écoutez, j'ai fait une farce avec le cycle de « je me souviens », puis on n'est plus « je me souviens », je ne suis plus rien au Québec. Regardez, je ne suis plus rien. Moi, là, la plus grande déception que j'ai eue au niveau du combat sur les armes à feu, ça a été quand l'Assemblée nationale a amené au Salon Bleu les 21 personnes pour débattre du registre. Et que je n'ai pu y aller. Écoutez, je suis reconnu aux États-Unis, en France, partout en Europe. J'ai été vanté parmi les plus grands musées comme étant une sommité sur les armes à feu au Canada et surtout sur les armes à feu historiques. On m'a interdit, en plus 25 ans d'armurerie, donc, puis tireur sportif, fonder un club de tir de vieux de 40 ans et on m'interdit l'accès au Salon du Peuple, pour aller leur dire « voilà ce que j'ai appris, vous nous parlez du suicide, voilà ce que vous venez nous dire qu'il faut enlever les armes à feu pour diminuer le suicide, c'est une fumisterie, parce que la courbe du suicide n'est pas influencée par ça. La courbe du suicide, c'est des décisions gouvernementales, c'est des politiques sociales qui font qu'un individu sur une ligne longue, un groupe d'individus vont faire monter la courbe du suicide. S'ils se sont les politiques sociales du gouvernement, quand un homme est heureux, il ne se suicide pas. Mais quand un peuple est malheureux, il se suicide. C'est la même chose pour la violence. Ce n'est pas les armes à feu qui font la violence. C'est un outil, la preuve. On a de plus en plus de restrictions pour accéder aux armes à feu. De plus en plus, on voit des assassinats terribles avec des couteaux. J'ai même plus peur d'un couteau, de me faire attaquer avec un homme, avec un Bowie, que de me faire attaquer avec un 357, parce que je vais être capable peut-être de neutraliser le 357, mais le couteau, s'il me rentre dedans, c'est terminé, là. Oui. Alors, vous voyez, ces politiques-là de l'État sont inconséquentes. Ils nous mentent effrontément parce que les sociologues qui leur donnent et le groupe de prévention du suicide, qui est une fumisterie, c'est pas vrai qu'ils arrêtent le suicide, là, les courbes, là, ils ont trafiqué les lois pour être capables de faire baisser le taux de suicide, puis ils vont nous dire que c'est à cause qu'ils ont fait des lois contre les armes à feu. Écoutez, là, il y a mourir dans la dignité qui est un suicide assisté par l'État. Hein, c'est un assassinat de l'État, le mourir dans la dignité. Là. Après ça, en 2000, ils ont changé les lois sur qu'est-ce que c'est qu'un suicide. Alors là, ils ont mis là-dedans l'intention. Ça a fait baisser la courbe du suicide. Ils ont venu nous dire nos lois sur les armes à feu sont efficaces. Vous voyez, ils nous manquent là-dessus. Les sociologues sont attachés au gouvernement, sont trop cons pour comprendre qu'eux autres même contribuent à ce mensonge collectif-là. J'ai essayé de les dénoncer. Allez voir mon livre. Je parle du suicide dans le livre là, que j'ai fait contre le registre des armes à feu. Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas me critiquer sur la place publique si j'ai tort? Pourquoi dans mes histoires, je ne les vois jamais venir se confronter à moi? Qu'ils viennent se confronter, on voit, je n'ai pas la langue dans ma poche. Là.
Ils n'ont pas les arguments.
La violence, le suicide, c'est créé par l'État. C'est créé par des lois. Et ce n'est pas nous autres qui sommes coupables de ça individuellement. Quand les gens sont malheureux, quand les gens sont pauvres, regardez les gangs de rue, ça vient de où? C'est jamais dit, le Facebook va nous couper. Et c'est bien de valeur, mais la violence à Montréal a une couleur, puis elle n'est pas blanche. Elle n'est pas blanche.
On a regardez, peur de dire.
Un jour, j'ai mis 4 photos d'un gang qui avait tué du monde à Toronto. 1 mois de temps Facebook, j'ai mis rien que la photo que le journal de Toronto avait mis, les quatre tueurs d'un gang. Je les ai mis, j'ai mis ça, je les ai regardés à couleur. La couleur de la violence, c'est ça. J'ai été 1 mois convédié de Facebook pour avoir fait ça.
Oui, mais l'acceptation de ça est rendue telle... Tu sais, vous parlez de la supercherie. Moi, je veux la ramener plus loin que l'adulte auquel on s'adresse avec les bulletins de nouvelles. Dans le temps, le clergé s'occupait de la santé, de l'éducation et du gouvernement. On les éclairait de là pour toutes sortes de raisons qu'on connaît. Il y en a qui sont en cours avec ça aujourd'hui. Puis il y a une espèce d'élite qui a pris la place, où le gouvernement a pris la place à la place du clergé pour la refonte du système au niveau de l'éducation. Nous, on a 5 enfants qui reviennent ici là, à tous les soirs, où j'en ai 2, que c'est une semaine sur 2. Ce qu'on entend là, de ces enfants-là là, reflète puis très clairement, il n'y a même pas de demi-mesure. On fait l'ablation. Je vais dire l'ablation. C'est même pas l'oubli. On fait volontaire, parce que c'est volontaire, parce qu'on coupe volontairement. On fait l'ablation de connaissances progressivement, de transmission de connaissances progressivement dans le système scolaire depuis des décennies, qui aide à ces gouvernements-là à mettre ces idéologies-là en place parce que l'acceptabilité dans les centres urbains est beaucoup plus grande. Hein? Quand tu entraînes des moutons, tu les entraînes pour qu'ils puissent fonctionner en société, mais tu veux juste garder quelques loups, tu ne leur donnes pas tes... Moi, c'est ce que je vois, puis c'est ce qui me désespère comme père de famille, parce que je les entends, les enfants arriver ici, puis ils me disent des choses, des fois, je fais « Qu'est-ce que tu me dis là? » Ben voyons donc, tabarouette, les pères fondateurs des États-Unis ici, je vais te montrer des photos, là, les plaines d'Abraham, là, c'était pas doux en tabarslac, là. On va se calmer un peu. Puis oui, un loup, ça mange un chevreuil pour manger, puis papa aussi.
Bon, écoutez, on voit la décadence, mode économique, énergie fermée, on achète, il me reste 10%. On voit la langue française en décadence parce qu'on apprend de moins en moins à communiquer. Ça, c'est voulu. C'est voulu par en arrière du système. Pas le ministre directement, là, mais ça, dans le fond, là, il y a une force derrière ça. Là. Il y a une force obscure derrière ça. L'histoire, c'est pareil. Moi, je fais de l'histoire. Écoutez, là, j'ai commencé à faire de l'histoire en première année, donc. On en faisait de l'histoire à cette époque-là. Et ça fait 51 ans que je suis professionnel en histoire. J'ai rencontré depuis 51 ans des étudiants en histoire, j'en ai parlé tantôt, et j'ai vu la baisse de compréhension, la baisse de capacité d'analyse et la baisse de connaissance. Alors, qu'est-ce qu'ils font maintenant, les jeunes historiens? Ils ne font que répéter ce qu'il y a déjà dans des livres, ils essayent de le réécrire. Alors là, avec l'intelligence artificielle, ça va tellement être plus facile. Moi, j'ai arrêté il y a à peu près 10 ans à rencontrer des jeunes historiens puis des journalistes pour donner des informations. Parce qu'à un moment donné, je leur ai dit, écoutez, là, tout ce que vous voulez, c'est avoir une pelule de compréhension pour 10 minutes d'effet. Après ça, il faut que l'histoire ça disparaisse de votre cerveau. Là. J'accepte plus ces jeux-là. Et oui, il y a une déchéance, il y a une dégénérescence intellectuel au niveau de l'histoire, de la compréhension et de l'esprit de synthèse. L'esprit de synthèse, c'est un esprit d'analyse, là. Alors, les jeunes ne sont plus capables de faire ça. C'est terrifiant, là.
Bon, mais l'amnésie volontaire, c'est tellement confortable.
Quand est-ce qu'on ferme votre émission?
Ben là, si vous êtes rendu à 10%, on va être obligé de notre côté de laisser. Puis si on en dit trop, à un moment donné, c'est Facebook qui vont dire « Vous n'avez plus de batterie. »
Oui, c'est ça. Mais si vous avez une question ou deux de vos visiteurs que vous voyez dans l'onglet en bas, ça va me faire plaisir là, qu'il y ait tenter de répondre à une question ou deux. Là.
Je vais vous dire, c'est principalement des éloges qu'on a. Oui. Ce soir, là, c'est principalement des éloges envers
beaucoup
votre...
d'amour vie. Envers vous. J'ai vu.
J'aimerais bien avoir des questions impertinentes.
Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup d'informations à digérer. Là. Moi, quand j'ai commencé à vous lire, puis suivre un peu qu'est-ce que vous avez fait de votre travail, j'ai dû absorber ça. Là. Ça a pris du temps parce que justement, je regardais, je vérifiais l'information. Puis là, je pense que ce soir, là, on en a shaké quelques-uns. Là.
Oui, parce que je cherche, là, puis je ne cherche que des... Je ne trouve que des gens qui appuient vos dires, qui donnent des exemples de leur vie personnelle, qui appuient ce que vous dites. Des gens qui répondent aux références qu'on cherchait, c'est Wilfrid Laurier.
C'est un grand homme, hein, Wilfrid Laurier. Dans la bataille contre la pendaison assassine de Louis Riel, là, c'était extraordinaire. Laurier, il a fait le plus grand discours qui s'est prononcé au Parlement d'Ottawa, hein. Sur la pendaison de Louis Riel. Il faut aller lire ce discours-là. Et on va finir là-dessus, sur la question de Louis Riel, puisqu'ils ont fait une révolte armée. Laurier leur dit justement, puis c'est de là que j'ai appris ce principe-là, en relisant et relisant le discours de Laurier sur la pendaison honteuse, l'assassinat légal de Louis Riel. C'est là qu'il donne l'exemple de Lincoln en disant, écoutez, là, à McDonald, Lincoln, on vient de finir la guerre de sécession aux États-Unis, puis Lincoln a laissé partir avec leurs armes et leurs chevaux tous les soldats sudistes et les généraux. Il les a laissés partir dans la dignité. Pourquoi est-ce que vous en pendez un et pas rien qu'un, parce qu'ils n'ont tué d'autres aussi. Pourquoi est-ce que vous les laissez pas? Maintenant, ils ont défendu leur terrain, ils ont perdu cette révolte-là. Laissez-les partir, mais pendez-les pas, mais ils l'ont pendu. C'est là qu'il dit à McDonald, vous n'êtes pas un homme d'État. Et c'est là que je dis à Justin Trudeau, tu n'es pas un homme d'État, tu n'es qu'une marionnette, tu es là pour répondre à des besoins parce qu'ils savent qu'intellectuellement tu es faible, tu n'es pas très fort, et ils t'ont mis là, puis ils vont essayer de te remettre là parce qu'ils font ce qu'ils veulent avec toi.
Oui, tu es excellent théâtre. Hein? Il y en a une question, puis elle nous vient de Régis, on l'appelle Régis parce que c'est notre régie de plateau, puis Régis est nouvellement détenteur d'un permis de possession-acquisition. À force de travailler avec nous dans ce genre de discours-là, moi aussi, je vais être un tireur sportif responsable, un propriétaire légitime d'armes à feu. Et c'est Régis qui pose la question, mais qu'est-ce qui empêche le peuple de se lever? Pourquoi le peuple ne se lève pas, d'après vous? C'est la question que j'ai eue la soirée, là.
À chaque fois que le peuple, quand Arnold et Washington sont venus à Québec, et ça pour moi, ça a été une grande révélation. Washington est reparti. Bon, Arnold les a trahis après, puis il est allé mourir en Angleterre. Bon, OK. Mais Washington a écrit une lettre à un moment donné. Je ne sais pas comment ça se fait qu'un peuple refuse d'être libre. Et on a vu ça en 1775. On a vu ça en 1812. Même avec les Fenians, quand les Fenians venaient pour essayer, on était du côté des Anglais. Je suis écouté, là, le Québécois, c'est du bon monde, mais c'est pas avec ça que je suis... Pourtant, ils ont déjà été des grands guerriers. Hein? Oui. Quand on étudie la conquête de la baie du Son, quand ils sont montés pour aller conquérir les forts aux Anglais à la baie du Son à la fin du 18e siècle, ils le disent eux-mêmes, nous mangeons de la mousse de roche.
Oui.
Je ne sais pas si vous connaissez ça. Pour être capable de survivre, ce peuple-là, c'est un peuple puissant, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans son ADN. Moi, j'ai essayé de l'expliquer d'une façon, c'est que on est resté individualisé. Mm-hmm. Et contrairement aux Américains qui, eux autres, se sont centralisés, ont eu le sens communautaire. Nous, nous sommes restés coureurs de bois individualisés. Ça ne fait pas notre affaire, je m'en retourne dans mon chalet. Ça ne fait pas mon affaire, je m'en vais dans mon garage. Il y a quelque chose qui s'est brisé là. C'est et vrai. On est resté accroché à ça. On n'a pas été capable de souder les coudes et d'avoir une pensée commune, de tout mettre ça, cette idée-là, là, individualiste, et individualiser, de la mettre ensemble pour aller combattre un ennemi commun, une idée commune. On n'a pas été capable de faire ce lien-là, et là, il faut la faire parce qu'on est en train de mourir. Là, comme communauté fondatrice, là, on n'est plus rien. Là. On est en train de mourir, on est dépassé par les événements. C'est épouvantable. Même les Indiens sont obligés d'avoir une carte. Pensez-y, là. T'as pas ta carte d'Indien, t'es pas Indien.
Oh, je pense qu'il y a même un irrespect face au père fondateur, face à nos aïeuls là-dedans, qui est énorme. Quand on pense à tout ça, quand on pense à tout ce que vous nous relatez là comme histoire, il y a un irrespect majeur. Puis, on peut-tu dire qu'aujourd'hui, dans la société, avec la génération qu'on a présentement devant nous autres, ça se reflète en tabarouette parce que le manque de respect envers les aïeuls lointains s'est rapproché à un point tel qu'on est rendu qu'on a un manque de respect envers l'aïeul direct, qui est les parents, et il y a une permissivité.
Oui, il y a cette déconstruction-là. Là, regardez ce qu'ils ont fait avec Delors des Ormeaux, la plaque qu'il y avait à Montréal. Delors des Ormeaux en 1660, c'est toute une histoire. Là. Bon, bien sûr qu'elle allait là pour chercher des fourrures, mais il allait là avec le consentement de Maisonneuve.
Mercantilisme méridional.
Et là, ils sont en train d'enlever des statues de Christophe Colomb un petit peu partout. Alors, regardez bien, ils vont enlever la statue de Champlain. Tantôt, là, je le dis, là, les Indiens là, allaient enlever ces statues parce qu'il a combattu les Iroquois en 1609, puis il a tué trois chefs. Il les a combattus aussi en 1615. Là, il a mangé sa plus dure, il a eu une coupe de flèches, il a manqué d'en mourir. Mais quand même, il a tué beaucoup d'Indiens. Là, il devrait s'attaquer à Champlain. J'ai hâte de voir le débat quand ils vont s'attaquer aux fondateurs de Québec. Alors, on va être dans le crushing, là.
Mais ça sera... Allez-vous être surpris? Je vais poser la question que Chuck posait tantôt. Allez-vous être surpris?
Je vous donne l'idée, là. Je suis en train de leur donner l'idée. Je vais voir le débat. À Champlain, il a tué des Indiens. Puis il en a tué en masse. Puis c'est à la demande de d'autres Indiens, évidemment, là. Mais lequel qu'ils vont avoir, je ne sais pas. Alors, tout est en train d'être démoli. On n'est pas capable de s'unir. On est mal instruit. On ne se pose pas de questions fondamentales. Et la culture, on l'a laissé à volo. Alors, on est en train de tout perdre. Là. Il ne nous reste plus grand-chose. Moi, je vous incite à vous en sortir et aller au-delà de ce que c'est que vous avez présentement. Dépassez votre petite carabine à vous autres, là, puis pensez à un ensemble. Pensez gros. Soyez les meilleurs de la question que vous vous posez et soyez les meilleurs du combat que vous êtes en train de livrer. Soyez les meilleurs. Dépassez-moi 100 000 à l'heure. Parce que moi, j'ai une limite, là. Ma limite est atteinte, là. 74 ans, là. Je suis en train de baisser. Je veux dire, on ne gagne pas contre la vieillesse, là. Hein? On peut gagner bien des combats, là, mais on ne gagne pas contre la vieillesse. Alors, pour moi, là, je suis, dans le fond, là, je suis en fin de parcours, là. Je finis mon dernier livre, là, et ça va être terminé. Le livre va être lancé à l'automne. Nous avons tous une histoire à raconter. Nous avons tous une histoire à raconter. C'est extraordinaire quand même. Chacun a son histoire. Soyez fiers de l'histoire que vous avez à raconter. Vous avez fait des choses grandes comme individu. Ce peuple-là, il a fait des fois des choses très grandes. Soyez fiers de l'histoire que vous avez à raconter. Je vous donne un exercice, tiens, historique. Posez-vous la question. Quelle est votre histoire à vous? Moi, j'en raconte une. Je commence mon avant-propos avec « Nous avons tous une histoire à raconter. Voici la mienne. » Alors moi, j'en ai une. C'est quand mon fils a disparu dans le bois l'an passé. Ça, c'était le drame de ma vie. Alors, je raconte cette histoire-là. Et chacun a son histoire. Puis, en fin de compte, il va y avoir 50 histoires comme ça. 50 histoires comme ça. Et j'ai placé Louis Riel là-dedans. Parce que Louis Riel, pour moi, c'est véritablement un héros. C'est le fruit d'une grande injustice et d'une mascarade judiciaire, comme le fédéral a toujours été digne de faire. Louis Riel est dedans. Il y en a d'autres aussi. Mais faites-le, vous. Votre exercice, faites-vous un 4-5 pages, votre histoire à raconter. Vous avez certainement un grand-père, une mère, vous avez vécu une expérience extraordinaire. Allez-y, lâchez pas.
C'est une discussion incroyable.
C'est profond et c'est excellent. Ouais. Ouais, avant que votre téléphone ferme.
Il me reste 6 minutes.
Tout le monde écrit présentement là, 1 million de merci, 1 000 merci. Là, Envoyez-nous de l'amour, là. Envoyez-nous du love un peu, là. Faites exploser la boîte à thumbs up, à petit sourire, à petit cœur, là. Un énorme, énorme... Je sais pas comment... Je sais pas c'est quoi le bon mot pour vous remercier d'être
un mot d'encouragement, je vais vous le dire.
Oui.
La victoire est toujours après la dernière défaite. C'est pour ça que je continue. Je n'ai eu que des défaites dans ma vie de ce combat-là sur les armes à feu. Je gagnais la dernière.
Mais la Martin dernière, Pimon, gagne la guerre. Martin Pimon a promis de venir voir au Club de tir Le Faucon un mardi. Oui. Je suis avec vous. Puis c'est sûr qu'on va venir, ça va nous faire plaisir, puis j'ai très hâte d'y aller et de discuter avec vous.
J'invite les clubs de tir à donner de l'argent à la NFA. Nous en donnons. On a donné plusieurs milliers, nous, le club de Faucon. Pourtant, on n'est pas plus riches que les autres. C'est le seul moyen qui nous reste, c'est de se regrouper, puis d'encourager notre monde qui se bat, puis qui prenne le micro. C'est important que ça soit fait. Alors, les clubs de tir, là, c'est pas dur de donner 1 000 $ chacun à un groupe comme la NFA ou un autre groupe. Donnez-les à qui vous voulez, mais à des groupes qui défendent nos droits. C'est important, ça. Passez une belle soirée. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci de m'avoir écouté. C'est pour moi un honneur.
Mais merci infiniment, Mme Bouchard.
C'est la dernière entrevue que vous donnez.
C'est la dernière que vous donnez?
J'aime pas ça. C'est parce que vous avez été sympathique. Le contact que j'ai eu avec vous autres, il s'est passé... Il y a un an qui a passé parce que je dis toujours non. Toujours non. Je ne veux plus, c'est inutile. Mais là, je vois qu'on n'a pas perdu notre temps. Vous étiez allumé, vous étiez à l'écoute. Vous avez un bel auditoire. Vos motifs de questionnement étaient sains, étaient honnêtes. Et ça me plaît. Je ne regrette pas l'expérience que j'ai vécue avec vous autres ce soir.
Mais là, on va aller manger un bon spaghetti avec des boulettes au club de tir chez vous parce qu'on se l'est fait vanter puis vous nous avez dit que vous ne l'aviez encore.
On a deux livres aussi à récupérer qu'on trouve nulle part.
Puis on parlera.
J'ai averti le président que vous aviez été invité et il était très heureux de ça.
Puis Chuck, ça prend des boulettes de plus, hein? Il faut se préparer.
Ça dépend. Là. Cette semaine, nous avions un spaghetti, mais vous pouvez arriver puis ça peut être des bines aussi.
Oh, c'est correct. Il remonte dans son char, je remonte dans le mien. Il n'y a pas personne qui va s'attaquer.
Mais c'est toujours fait maison, hein? C'est toujours fait maison. On n'achète pas un préfabriqué, là.
Hey, c'est authentique comme vous. Authentique
premier
comme
mardi,
vous.
Prochain mardi du mois, c'est des hamburgers avec des frites maison.
Hey, vous savez, là, allez-y, tabarouette. Je vous remercie infiniment.
Merci infiniment.
Je vous remercie infiniment. Mais moi, je suis persuadé qu'en face d'un bon spaghetti, on peut négocier une prochaine parution de Mme Bouchard.
On va travailler fort.
La soirée, vous avez été formidable.
Merci. Merci, Mme Bouchard. Merci, au revoir. Salut, gang. Salut, un gros merci à tout le monde.